Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors comme tous les jours dans ce studio, je ne suis pas seule, je suis très bien accompagnée par qui ? Par le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy,
bonjour,
comment allez-vous ?
Bonjour à tous, mais quelle présentation, on dirait presque un
le début
chanteur.
D'un one-man show, je
exactement.
Ne sais pas.
Mais ouais, c'est un peu ça, un peu ouais. Ça l'ambiance de l'émission.
Mais nous c'est un duo, alors
ouais. Un duo qui fonctionne pas trop mal, je
ouais.
Crois.
Allez, super, merci. Au programme aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, on va parler de nos dents et surtout de tous ces dispositifs qui les font peut-être un peu grincer quand on les évoque. Les bridges, les couronnes, les prothèses, dans quelles situations nous sont-elles nécessaires ? Y a-t-il eu des progrès qui rendent tous ces soins dentaires moins effrayants ? Alors pour nous éclairer sur le sujet, notre invité ce jour, ce sera le docteur Christophe Lecard. Il est chirurgien dentiste et membre de l'UFSBD, l'Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire. Ensuite, comme tous les vendredis, un vent de beauté soufflera dans cette émission avec la chronique de Benjamin Lévesque. Il a choisi de nous parler vernis à ongles aujourd'hui, comment les choisir, bien les appliquer. Bien sûr, il nous dira tout. Et puis vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons la chronique Psycho de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous détaillera les tenants et les aboutissants de certaines angoisses nocturnes.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux. Vous le savez, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va commencer par celle de Carole qui s'inquiète pour son petit garçon. On écoute sa question.
Bonjour Jimmy, bonjour Mélanie. Je vous téléphone, mon petit garçon de 5 ans est très agité en classe. Sa maîtresse nous a déjà convoqué plusieurs fois et conseillé d'aller voir un psy, car elle pense qu'il est hyperactif. Mais je me dis, un enfant, ça court, ça bouge, et puis il est petit quand même. Pensez-vous que nous devrions suivre son conseil ?
Alors pour vous répondre, Carole, on a posé votre question au docteur Louis Vera, qui en prend en charge justement des enfants réellement hyperactifs. Il est pédopsychiatre à Paris, on écoute ce qu'il en pense.
Alors je suis d'accord avec la maman de ce jeune homme. Effectivement, c'est normal pour les petits de bouger. Là où on va se poser la question de troubles de l'attention ou d'hyperactivité, c'est quand finalement ça vient avoir un impact fort sur ses capacités à travailler en classe. Par contre, ça peut être intéressant de voir quelqu'un effectivement pour se poser la question, parce que c'est toujours bon de prendre ses difficultés tôt, mais je ne lui conseillerais pas d'aller voir un psy, que ce soit psychiatre ou psychologue, mais plutôt un psychomotricien. Parce que c'est toujours la première ligne de prise en charge pour les jeunes qui ont des troubles de l'attention quand ils sont très jeunes, d'autant plus parce que les retards en psychomotricité peuvent entraîner de l'agitation chez les jeunes qui sont diagnostiqués à tort hyperactifs. Et ça, on les dépiste justement en grande section de maternelle.
C'était donc le docteur Vera au micro de Benjamin Lévesque. À présent, Jimmy, on va prendre une autre question d'auditeur pour vous. C'est Antoine qui vit à Évreux, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, j'ai une petite boule au coin de l'œil, au niveau de la racine du cil. C'est ce que j'ai l'impression en fait. Et c'est un peu gênant, mais bon, je pense pas que ça soit grave. Et j'ai ma mère en fait qui pense que c'est un orgelet et qui me dit qu'il faudrait peut-être que je frotte avec de l'or dessus. Je vous avouerai que je doute un petit peu de ce qu'elle me propose et je voulais savoir si docteur Mohamed avait quelque chose à me conseiller pour ôter cette petite boule. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonne journée, au revoir.
Bon, on va parler de l'intérêt de frotter les bagouses en or après sur l'œil, juste après. Jimmy, mais peut-être d'abord rappelez-nous ce qu'est un orgelet justement.
Alors, un orgelet, c'est une infection bactérienne qui est très fréquente et sans aucun critère de gravité du bord de la paupière qui va être centrée sur la zone d'implantation d'un cil qu'on appelle le follicule pilosébacé. Et on verra après, mais l'or, moi je l'échange contre des dosettes d'antibiotiques. Donc je récupère l'or et je file à la place avec du traitement.
La cause, c'est quoi, Jimmy ? C'est quoi ? On a trop touché les yeux ?
Alors, je sais pas, ouais. Oui, vous avez raison. C'est lié à une mauvaise manipulation, puisque c'est une infection bactérienne, souvent un staphylocoque. Le staphylocoque, il va traîner un peu partout. Et puis, lorsque vous allez mettre vos lentilles, vous démaquiller, vous frotter les yeux,
quoi,
exactement, vous allez disséminer un petit peu ces petits staphylocoques qui va donner cet orgelet.
C'est quoi la différence entre orgelet et chalazion, un autre problème au niveau de l'œil dont on a parlé il n'y a pas longtemps ?
Oui, c'est vrai que ça se ressemble, mais c'est différent puisque l'orgelet, il est centré par un cil, alors que le chalazion, ça va être une réaction inflammatoire qui est due à l'engorgement d'une glande. Une glande qui va s'enquister, qui va grossir et qui va prendre la forme d'une bosse et d'une paupière, autour de la paupière, pardon. Alors que dans l'orgelet, on appelle orgelet parce que la petite boule de pus que vous avez, elle prend la taille d'un grain d'orge, d'où le mot orgelet.
Voilà,
et ça n'a aucun rapport
avec vous.
Et oui, je suis le Stéphane Bern de la médecine.
D'accord.
Et aucun rapport avec l'or qu'on voudrait appliquer.
J'allais vous dire donc l'or justement, Jimmy, parce que c'est vrai que moi aussi je l'ai déjà entendu. Hein. Frotte-toi une bague en or, prends un truc en or et tu le frottes sur l'œil, ça va partir. Enfin, c'est un truc de grand-mère, ça marche pas. Il n'y a aucune preuve scientifique de ça.
Laissez-le à la banque tranquillement, mettez-le autour du cou, faites-vous plaisir.
Dans la boîte à bijoux.
Au contraire, vous risquez, si jamais la surface n'est pas propre, de disséminer d'autres bactéries. Donc c'est un très mauvais conseil.
Alors,
utiliser des petits moyens tout simples.
On fait quoi justement, Jimmy ?
Alors, on peut se soulager avec des compresses qu'on va imbiber d'eau chaude, qu'on va mettre sur les yeux plusieurs fois par jour. On prend du paracétamol quand on a mal. On applique des petites gouttes antiseptiques et parfois, on a recours à une pommade antibiotique. Et dans certains cas, que ce soit le calasion ou l'orgelet, on a besoin d'exciser avec un petit bistouri. C'est l'ophtalmo qui le fait. Ne le faites pas avec vos doigts. Je sais que vous aimez percer les boutons, Mélanie, mais ne faites pas ça au niveau des yeux. C'est pas bon du tout.
Dis donc, je ne vous autorise pas à dévoiler des petits penchants comme ça, Jimmy. Bon, merci en tout cas pour toutes ces précisions. Si vous aussi, comme Antoine qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, bien sûr, n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors c'est le moment d'accueillir en studio avec nous notre invité du jour. C'est vous, docteur Christophe Lecard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien dentiste et membre de l'UFSBD, l'Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire. Alors nos auditeurs fidèles vous connaissent, hein, c'est pas la première fois que vous venez sur ce plateau. Aujourd'hui on va parler des prothèses dentaires. Alors pour l'instant, au sens large, c'est l'une des activités, je crois, quand même les plus courantes des dentistes. On en pose combien, si on a une petite idée, au moins une moyenne en France chaque année?
Alors, je n'ai pas le chiffre exact du nombre de prothèses posées tous les ans,
ça fait beaucoup, ouais.
Mais ça représente environ 30% de notre activité au quotidien, au cabinet, la réalisation des prothèses dentaires.
Et justement, qu'est-ce que c'est qu'une prothèse dentaire? On comprend prothèse, on a l'impression que ça va être un dentier, mais c'est un vaste champ, en fait, ça regroupe beaucoup de choses.
Alors, on distingue deux types de prothèses, les prothèses amovibles et les prothèses fixes. Les prothèses amovibles, ce sont les appareils que l'on enlève, qui remplacent des dents, donc qui remplacent soit l'intégralité des dents, soit uniquement quelques dents manquantes. Et puis, il y a la prothèse fixe. La prothèse fixe, ce sont les couronnes, les bridges, donc des éléments qui ne s'enlèvent pas, que l'on réalise sur les dents qui sont encore présentes en bouche.
Alors justement, on va les détailler les deux sortes, on va dire. On va commencer par les fixes. On parle de quoi, par exemple, quand on parle de prothèses fixes ?
La prothèse fixe, ce sont les couronnes que l'on réalise sur une dent qui a été fortement délabrée, que l'on a reconstituée avec nos matériaux, le plus souvent en résine aujourd'hui. Mais ces dents, elles restent fragiles parce que le volume du matériau de reconstitution est relativement important et les pans qui restent de la dent sont très fins. Et sous l'effet des forces de mastication, eh bien, il y a un effet de coin qui se fait et donc le pan restant de la dent peut casser, et si cette fêlure ou cette fracture va jusqu'au niveau de la racine, eh bien, on est obligé d'extraire la dent. Donc, le but de la couronne, c'est de faire un cerclage de cette dent qui est fragilisée.
D'où le titre, enfin le mot couronne, hein, ça entoure...
Ça entoure la dent. On réalise réellement un cerclage de la dent et on va reconstituer de manière durable la dent, de manière fonctionnelle et de manière esthétique.
Et comment est-ce qu'on fait le choix, justement, entre une couronne, un implant ou un bridge ? Qui c'est qui décide ? C'est le dentiste ou c'est le patient ?
C'est le praticien qui décide, qui va faire plusieurs propositions au patient. Et puis, il y a certains cas où on ne peut pas réaliser, par exemple, de prothèse fixe. Quand il vous manque toutes les dents postérieures, eh bien, vous n'avez pas la possibilité de réaliser un bridge, parce qu'on le verra certainement tout à l'heure. Pour réaliser un bridge, il faut avoir des piliers dentaires.
C'est quoi un bridge ?
Alors, un bridge...
Ça n'a rien à voir avec le jeu, là, le bridge.
Le bridge, eh bien, c'est... la traduction, elle est exacte, hein, c'est un pont. C'est
oui,
pour
bah oui.
remplacer...
Je n'avais même pas pensé à l'anglais. Ou, oui, d'accord.
C'est pour remplacer une dent qui est absente. Donc, on va couronner une dent en avant de la dent absente. On va couronner une dent en arrière de la dent absente. Et à ces deux couronnes, va être soudée une couronne dans le vide qui va affleurer le niveau de la gencive et qui va remplacer cette dent absente. Donc c'est bien un pont, on a deux piliers, un en avant, un en arrière et une travée qui remplace la dent absente.
Et alors tout ce qui est amovible, pour le coup, il y a les... Ben nous on pense aux dentiers, quoi, mais il n'y a pas que ça, hein, je crois, aujourd'hui. C'est quoi tout ce qui est prothèse amovible ?
Alors dans la prothèse amovible, il y a soit la prothèse qui remplace l'intégralité des dents, que les personnes appellent couramment les dentiers, ce qu'on appelle nous la prothèse complète, et il y a la prothèse partielle qu'on appelle les stélites. Les stélites, eux, sont là uniquement pour remplacer une ou plusieurs dents absentes.
Ah oui, stélite, je ne connaissais pas ça. Jimmy, vous en avez, j'allais dire.
Alors, la précision aussi, la différence que l'on peut faire entre la prothèse complète et la prothèse partielle, c'est que ces stélites, ils ont une base métallique et sur cette ossature métallique, on va venir fixer des dents en résine et une fausse gencive en résine.
Et justement, les patients qui viennent vous voir, ils ont quel âge ? Est-ce qu'il y a un profil particulier ? On pense souvent à des personnes âgées, quand on pense avec l'image du dentier, mais est-ce que vous avez des plus jeunes justement qui viennent se faire poser des prothèses ?
On peut se faire poser des prothèses vraiment à tout âge parce que la réalisation d'une couronne, par exemple, vous avez fait une chute de vélo et donc vous avez eu une fracture de,
oui, donc même un enfant, quoi, ouais,
de votre incisive et donc il faut remplacer cette incisive si cette incisive a dû être extraite ou si l'incisive est toujours présente mais que la destruction est trop importante, envisager de la couronner. Donc il n'y a pas d'âge réellement pour réaliser les différents types de prothèses. La prothèse amovible, on la réalise généralement au-delà de 50 ans.
Mais est-ce que l'indication pour une prothèse, que ce soit donc un dentier, une prothèse amovible totale ou une couronne, un bride, vous disiez des dents parfois abîmées par un accident, par une carie, c'est toujours esthétique le souci ou est-ce que aussi ça peut être fonctionnel ? Parce qu'on l'oublie, mais les dents, oui, c'est joli, il y a le sourire, mais c'est aussi très fonctionnel. On en a besoin pour bien manger. Est-ce que parfois la raison de la pose de cette prothèse, c'est quelque chose de mécanique, de médical, quoi ?
Oui, c'est quelque chose vraiment de médical parce que la prothèse, elle est là effectivement pour assurer l'esthétique, mais surtout pour assurer la fonction parce que si on a des dents absentes, eh bien, on ne peut pas mastiquer correctement. Donc, si on ne mastique pas correctement, eh bien, le travail de mastication devra être fait par notre estomac et donc on va avoir des difficultés de digestion et des problèmes qui vont en découler. Si on a des dents absentes aussi, on peut avoir un déséquilibre de la mâchoire qui va se répercuter sur l'ensemble de l'organisme. Et on a constaté en particulier chez les personnes les plus âgées et en EHPAD qui n'étaient pas appareillées avec des dents absentes, il y avait plus de chutes parce que des problèmes d'équilibre liés à des problèmes de posture au niveau des mâchoires.
Alors vous l'avez dit, on peut poser des prothèses à tout âge, mais est-ce que ça vous arrive d'en poser chez des enfants ? Est-ce qu'on imagine qu'ils ont des dents de lait, c'est pas très grave, ça peut attendre, mais est-ce qu'un enfant peut aussi avoir des couronnes, par exemple ?
On peut réaliser des couronnes chez les enfants, on appelle ça des couronnes pédiatriques. On les réalise quand il y a des destructions importantes des molaires de lait liées à des caries. Et donc, pour reconstituer de manière durable, en attendant l'arrivée de la dent définitive en dessous, la dent définitive sous la molaire de lait, ce sont les prémolaires, eh bien, on réalise ces couronnes pédiatriques.
Docteur Lecard, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus, surtout si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité en studio avec nous, c'est le docteur Christophe Lecard. Je rappelle que vous êtes chirurgien-dentiste et membre de l'UFSBD, l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Docteur Lecard, on a commencé à en parler un petit peu tout à l'heure des prothèses dentaires. Il en existe des fixes, des amovibles, vous avez précisé. On va d'ailleurs les repasser un petit peu en revue, mais avant ça, si je vais chez mon dentiste pour une prothèse, il va devoir faire des empreintes. Beaucoup d'auditeurs sûrement sont passés par là. Les empreintes avant, je ne sais pas si on fait ça toujours avec ça, mais on fait ça avec la fameuse pâte à empreinte. Elle est faite de quoi d'ailleurs cette pâte ?
Alors, il existe différents matériaux pour ces pâtes à empreintes en fonction du type de prothèse d'ailleurs que l'on va réaliser. Sur la prothèse amovible, on utilise le plus souvent un matériau qui s'appelle l'alginate. L'alginate, au départ, était à base d'algues, d'agar-agar. Donc, c'est une poudre qu'on mélange avec de l'eau qui va se gélifier progressivement, généralement au bout de 2 minutes, et qui nous permet de prendre donc les empreintes de la bouche de nos patients. On utilise aussi d'autres matériaux, plus pour la prothèse fixée, qui sont des silicones ou des polyéthers, qui sont donc issus de l'industrie chimique. Et sinon, il y a une évolution aujourd'hui en termes d'empreintes, c'est qu'il y a l'arrivée des empreintes optiques. C'est-à-dire qu'on n'utilise plus de pâte à empreintes dans la bouche de nos patients.
Ça devient high-tech, la prise d'empreintes, je crois.
La prise d'empreintes, elle devient réellement high-tech, puisqu'on va utiliser une caméra qui va prendre des photos de la dent que l'on a préparée pour recevoir une couronne, par
exemple. En 3D,
exemple.
Des photos 3D, c'est ça ?
Des photos en 3D, et donc, on va scanner la bouche de notre patient, elle va être reconstruite en 3D par l'intermédiaire d'un logiciel, et sur cette empreinte en 3D, le prothésiste va pouvoir réaliser sa couronne, lui aussi, en 3D, et cette couronne sera envoyée ensuite à une machine-outil qui va fraiser, par exemple, un bloc de céramique pour réaliser la couronne.
Empreinte 3D, Jimmy, on est dans le dentiste du futur. Ah ouais, là, ouais. j'ai eu la vieille pâte à empreinte. Hein, mais...
oui, je pense que ça, c'est un signe de vieillesse, Mélanie. Ouais. Moi aussi, j'ai eu ça et je pense que...
C'était des bols orthodontie à l'époque.
Hein. Oui, exactement, on est dépassé. Alors, Christophe, on va reprendre un peu en revue, en catalogue, les différentes prothèses, notamment les fixes, avec les fameuses couronnes. On a tous entendu parler de ce mot un jour, mais on ne comprend pas bien qu'est-ce que c'est qu'une couronne. C'est un truc qui va entourer, réparer la dent, vous avez dit, mais... on va le mettre chez qui ? Une carie mal soignée doit être couronnée ou pas du tout ?
Alors, ce n'est pas une carie qui est mal soignée, hein, c'est une carie qui a été trop importante. Et qui, donc,
les dentistes soignent bien, c'est les gens qui laissent traîner, je crois.
Et donc, on a une reconstitution qui ne sera pas viable dans le temps. Et donc, c'est pour ça que l'on va décider de couronner la dent. Alors, comment on va réaliser cette couronne ? Eh bien, on va détourer la dent, on va donc la tailler, c'est pas le terme tout à fait exact, mais on va donc détourer cette dent, lui donner une forme un peu d'un pâté de sable et on va réaliser une empreinte et ensuite le prothésiste va confectionner la couronne qui va reconstituer parfaitement votre dent, à la fois au niveau fonctionnel et au niveau esthétique.
Et alors justement, vous dites esthétique, c'est en quel matériel, le matériau, les couronnes en général ? Il y a différents modèles peut-être et différents prix, j'imagine.
Alors, il y a différents types de matériaux qui peuvent être utilisés pour réaliser les prothèses fixes et donc les couronnes. On peut les réaliser en métal. Ce métal peut être un métal non précieux ou un métal précieux.
Ah oui, donc, en or.
Les métaux précieux, et bien sûr, c'est de l'or. Et les métaux non précieux, aujourd'hui, la plupart des couronnes métalliques, elles sont réalisées en alliage chrome-cobalt. Avant, on utilisait un autre alliage, qui était l'alliage nickel-chrome. Et on a abandonné cet alliage nickel-chrome parce qu'il y avait de plus en plus de patients allergiques et en particulier de patientes allergiques. Parce qu'avec beaucoup de bijoux fantaisie qui étaient à base de nickel, les patientes ont donc eu des allergies au nickel et donc ces allergies au nickel déclenchaient des allergies avec nos couronnes, donc on a abandonné ce matériau.
Pourquoi les patients veulent se mettre des trucs en or, des dents en or d'ailleurs ? C'est qu'une visée esthétique.
J'ai l'impression qu'il y a dans les films, mais...
Non, mais d'ailleurs, est-ce qu'il y a une vraie demande d'ailleurs à ce propos ? Est-ce qu'il y en a un intérêt à mettre justement un alliage en or ?
Je préfère que ce soit blanc et discret, moi non, enfin je sais pas.
Ouais, on a plutôt envie que ça se voit pas, non ? Les gens peut-être demandent de la sobriété, enfin je sais pas.
Alors, l'intérêt d'utiliser donc un alliage précieux, c'est qu'il est 100% biocompatible. Quand on réalisait des couronnes complètes en métal, donc l'idéal était d'utiliser l'or. Ensuite, pour les couronnes en céramique, on a deux types de couronnes en céramique. On a les couronnes céramo-métalliques et les couronnes céramo-céramiques. Les couronnes céramo-métalliques, on a une base en métal, et sur cette chape en métal, le prothésiste va venir cuire de la céramique pour reconstituer la dent. Et donc, l'idéal est d'utiliser effectivement une base donc en métal précieux qui est plus biocompatible. Pour les couronnes céramo-céramiques, là, on est 100% qu'avec de la céramique.
Comment ça colle ? D'ailleurs, je me suis toujours demandé ce qu'on mettait dans la bouche, finalement, pour que toutes ces prothèses, elles tiennent. Ce n'est pas de la superglue, hein, j'imagine. Vous avez des matériaux différents, des choses.
En fonction du type de matériaux que l'on va utiliser, eh bien on va soit sceller, soit coller les couronnes. Donc, quand on les colle, c'est avec des résines et avec des ciments oxyphosphate quand on doit les sceller. Vous parliez de la glu. On a fait des tests, ça ne marche pas.
Ah,
parce que...
Je croyais que ça collait tout, moi, mais pas les dents.
Non,
pas
la super-U, parce que le problème, c'est que ça se dissout dans la salive, et donc c'est pour ça qu'on ne l'utilise pas.
Alors, on parle beaucoup aussi des implants. Quel est l'avantage de poser un implant ? Est-ce qu'on peut en mettre chez tout le monde ?
L'avantage d'un implant... Tout d'abord, pourquoi on réalise un implant ? On réalise un implant pour remplacer une dent qui est absente. On parlait tout à l'heure de la réalisation d'un bridge pour remplacer une dent qui était absente, mais on devait préparer une dent en avant et une dent en arrière. L'intérêt de l'implant, c'est qu'on ne va pas toucher la dent en avant et la dent en arrière, qui sont des dents qui peuvent être parfaitement saines. Donc l'implant, c'est une racine artificielle en titane que l'on va venir insérer au niveau osseux. On va attendre que cet implant soit intégré au niveau osseux, donc c'est un délai entre 4 et 6 mois en fonction de la localisation. Et sur cet implant, on va venir fixer une couronne.
D'accord, très bien. Docteur Locard, on va continuer bien sûr cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et il nous accompagne cet après-midi. C'est vous, docteur Christophe Lecar. Je rappelle que vous êtes chirurgien-dentiste et membre de l'UFSBD, l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Alors, docteur Lecar, on n'a pas encore parlé, mais il y a aussi d'autres, comme pour les faux ongles, finalement, j'allais dire des fausses dents, mais ce qu'on appelle les facettes dentaires. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est rapidement ?
Alors, une facette dentaire, c'est une fine pellicule en céramique qui a pour but de redonner de l'esthétique aux dents antérieures.
Moi, ça fait me penser aux facettes à l'américaine, aux dents qui font un peu fausses, là, qu'on voit dans les films américains, qu'on voyait en tout cas dans les films américains.
Idéalement, si on réalise correctement des facettes, eh ben, il faut que ça fasse vrai. Donc, le but de la facette, c'est de retrouver de l'esthétique sur une dent qui peut avoir une forme disgracieuse ou une couleur qui n'est pas très jolie. Donc, la facette, on va venir dépolir légèrement la surface de la dent et on va venir coller comme un faux ongle, par exemple, donc cette fine pellicule de céramique qui va reconstruire l'esthétique et la forme de la dent.
Et ça reste pour toute la vie, ça, ou il faut les changer de temps en temps ? Comment ça se passe pour les facettes ?
Les facettes, généralement, elles sont, on ne peut pas dire à vie, mais on en a pour de nombreuses années. Elles peuvent se décoller puisqu'elles sont collées sur la surface de la dent. Dans ces cas-là, on les recolle tout simplement.
Et ça se passe très bien.
Alors Christophe, j'ai beaucoup de défauts et j'ai peur des dentistes.
Mais
j'ai
vous lavez bien les dents, je crois, ça va.
Je me lave correctement les dents, mais j'ai peur d'un simple détartrage. Alors j'imagine les patients qui nous écoutent de se dire « on va me mettre une prothèse, un implant ». Comment ça se passe, la gestion de la douleur, de l'anesthésie ? Je suppose que c'est quelque chose qui doit aussi un peu angoisser les patients, ou au contraire, ils arrivent déterminés chez vous à dire « allez, mettez-moi la prothèse et puis qu'on passe à autre chose ».
Quand on réalise une prothèse amovible, la prise d'empreinte, elle est absolument non douloureuse.
Non, ça fait pas mal, moi je valide, j'ai déjà fait, ça fait pas mal du tout.
Ce qui peut être compliqué pour nos patients, c'est lors de la pose de cette prothèse amovible. Dans les premiers jours, il y a un temps d'adaptation, il peut y avoir des petites zones de surpression au niveau de la gencive sur laquelle repose cette prothèse amovible. Et donc on fait des petites retouches au niveau de cet appareillage pour qu'il y ait un confort complet du patient. Pour la réalisation des couronnes, quand on doit préparer une dent, si cette dent a été dévitalisée, eh bien, il n'y a pas besoin de réaliser d'anesthésie puisqu'il n'y aura pas de douleur. Pour réaliser une couronne, on n'est pas obligé de dévitaliser une dent. Donc on réalise parfois des couronnes sur des dents vivantes et dans ces cas-là, on fait une anesthésie à nos patients pour préparer cette dent. On réalise l'empreinte, on va réaliser ce qu'on appelle une couronne temporaire, provisoire, qui va permettre d'attendre la réalisation de la couronne définitive. Et donc, les patients n'ont pas de douleur entre le moment où on prépare la dent et le moment où on va poser la couronne définitive.
Quand on m'a posé une couronne ou un bridge, donc la douleur, on a compris, c'est à peu près, c'est bien géré. En revanche, je vais pouvoir manger tout de suite après. Bon, enfin, comment ça se passe, juste les suites assez rapides, je veux dire.
De manière immédiate, dès que vous sortez, vous pouvez de nouveau remastiquer sans aucun problème.
Sur la dent, enfin sur le bridge, hein, je veux dire, c'est ça. Ouais.
Une fois qu'on vous a posé votre bridge définitif ou vos couronnes définitives, en gros, dans les 15 minutes qui suivent la pose, vous pouvez de nouveau remastiquer correctement.
Alors, on va parler un peu de l'entretien. Est-ce qu'une prothèse, ça s'entretient comme des dents, ou que ce qu'on peut se dire, bon, bah, vu
elles
que
sont fausses, elles vont pas se carier.
C'est faux, on peut y aller, on ne fait pas très attention.
Pour la prothèse amovible, eh bien, il faut retirer son appareil, se brosser les dents quand il y a encore des dents qui sont présentes. Et si on n'a plus de dents, eh bien, on enlève ces appareils et on va nettoyer ces appareils. Le nettoyage de ces appareils...
Avec du dentifrice ?
Il se fait avec, idéalement, plutôt du savon et avec une brosse dite à prothèse, qui est une brosse qui est un petit peu dure, qui va permettre de bien nettoyer cette prothèse. Quand on a des couronnes ou des bridges, eh bien, on se brosse les dents normalement, puisque c'est quelque chose qui ne s'enlève pas, comme l'on fait habituellement avec sa brosse à dents et en passant les brossettes interdentaires pour nettoyer dans les espaces entre les dents. Et plus particulièrement quand on a un bridge, puisque l'élément qui va remplacer les dents absentes, il affleure le niveau de la gencive, eh bien, on va passer ces brossettes sous cet élément qui affleure le niveau de la gencive pour bien nettoyer si jamais on avait quelques petits débris alimentaires qui se coincent dessous.
Et les prothèses qu'on peut retirer, les prothèses amovibles, est-ce qu'on peut dormir avec ou est-ce qu'on est obligé de les retirer la nuit, comme on peut voir dans certains films ?
Je crois qu'il va nous parler de sa grand-mère, vous allez voir.
À vrai dire, c'est comme vous voulez. À partir du moment où cette prothèse est bien nettoyée, on peut tout à fait dormir avec. Et effectivement, ma grand-mère dormait avec ses prothèses qui remplaçaient l'intégralité de ses dents parce qu'elle me disait « je ne conçois pas de ne pas dormir avec parce que si jamais je meurs dans mon sommeil, je ne veux pas qu'on me voie le matin sans mes dents. »
Ah oui, c'est vrai. Donc elle préférait dormir avec.
Donc voilà. Et aujourd'hui, il n'y a vraiment aucun problème de pouvoir dormir avec ces appareils à partir du moment où ils ont été bien entretenus. Si vous ne dormez pas avec, il faut les laisser au sec.
Alors, oui, on voit dans les films le petit verre d'eau, j'allais dire. Vous dites au sec, mais on voit parfois dans les films sur le coin de la salle de bain, là, dans un verre d'eau, le dentier qui flotte. Là. Ça, ce n'est pas du tout une bonne idée, en fait. Hein.
Alors ça, ce n'est pas du tout une bonne idée, parce que si on laisse tremper ses prothèses dans ce verre d'eau, eh bien, c'est un vrai bouillon de culture, les bactéries vont se développer. Et pourquoi on a cette image? Parce qu'avant, les résines que l'on utilisait étaient des résines pressées qui ne supportait pas l'absence d'humidité, qui avait tendance à blanchir en absence d'humidité. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait les laisser tremper si on ne les portait
pas. Donc, ce n'est pas des erreurs des films, hein, ça se faisait vraiment
ça
avant.
Ça se faisait vraiment. Ouais. Et aujourd'hui, on utilise des résines qui sont injectées, qui sont non poreuses ou très peu poreuses, donc qui ne se déshydratent pas et qui ne deviennent pas blanches. Donc, c'est pour ça, si vous ne dormez pas avec vos prothèses amovibles, eh bien, laissez-les au sec sur la table de nuit.
Alors, quel est le coût de ces prothèses? Parce que parfois, c'est un frein et parfois, ça reste une somme assez importante, même si c'est un investissement sur long terme.
Alors, il y a une évolution en ce qui concerne les remboursements des prothèses, puisqu'il y a aujourd'hui différents paniers de soins qui ont été créés. Et donc, des paniers de soins en reste à charge zéro, reste à charge modérée et panier libre. Donc, de toute façon, avant la réalisation d'une prothèse, votre chirurgien-dentiste va vous établir un devis.
C'est obligatoire, hein, ça.
C'est ouais. obligatoire. Et ce devis, vous allez pouvoir le transmettre à votre organisme complémentaire qui va vous répondre si vous allez avoir du restant à charge ou non sur les prothèses qui vous sont proposées.
Un bridge, une couronne, on peut donner des fourchettes de prix. Ça vaut combien à peu près aujourd'hui en moyenne?
Aujourd'hui, si vous réalisez la prothèse la plus simple, la couronne en métal, eh bien, elle rentre dans le cadre du reste à charge zéro. Et donc, les honoraires sont fixés par assurance maladie, 290 euros. Si vous réalisez une couronne céramo-métallique en fonction de la localisation de votre dent, elle peut être en reste à charge zéro avec un honoraire de 550 euros. Et une nouveauté depuis le 1er janvier en ce qui concerne la prothèse amovible, celle qui va remplacer l'intégralité de vos dents, eh bien, les honoraires sont fixés aussi par l'assurance maladie. En reste à charge zéro, c'est 1100 euros pour la réalisation d'une prothèse. Donc 1100 par deux pour le haut et le bas.
Très bien. Merci beaucoup, docteur Lecard, de nous avoir accompagnés cet après-midi. Le dentaire, ça fait toujours un peu peur, mais grâce à vous, on ira chez le dentiste, au moins bien informé. Merci encore.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Et à présent, il est temps de soigner votre apparence avec la routine beauté de Benjamin Lévesque. Benjamin, aujourd'hui, vous vouliez nous donner tous vos bons conseils pour appliquer son vernis comme une pro. Comme un pro, d'ailleurs, si des hommes, Jimmy,
aussi,
je sais que ça vous intéresse
aussi.
Beaucoup comme sujet. D'abord, je crois qu'il y a deux, trois trucs, Benjamin, qu'il faut connaître avant de se vernir les ongles.
Oui, alors ça peut paraître logique, mais commençons par bien se nettoyer les doigts à l'aide d'une eau émolliente pour retirer l'ancien vernis et dégraisser l'ongle. Ensuite, eh bien, on va lui donner une jolie forme. Et pour ça, eh bien, on va limer ses ongles. Mais pas n'importe comment, hein. Je vous ai vu faire l'autre jour, Jimmy, ça n'allait pas. Il faut bien choisir sa lime, comme l'explique l'esthéticienne Maud Ravier.
Au niveau du limage, je vous déconseille les limes en verre, les limes en fer ou les limes qui sont vraiment spécialisées pour les faux ongles. Ce sont des limes qui sont dures, qui sont raides et qui ont des trop gros grains qui vont venir abîmer vos ongles. Alors on va vraiment privilégier la lime de base, la petite lime cartonnée, tout en souplesse, qui peut vraiment se marier avec la forme de votre ongle et qui ne va pas venir agresser l'ongle.
Alors une fois que vos ongles sont limés, bien on va appliquer ce que l'on appelle une base. Alors c'est comme un film protecteur pour empêcher que le vernis soit en contact avec notre ongle. Comme le dit Nathalie Rolf, elle est formulatrice internationale pour la marque Mavala.
Premièrement, les bases vont protéger l'ongle naturel contre les pigments. Parce que les pigments, peu importe le type de couleur, mais surtout quand vos vernis sont plutôt de couleur très foncée, donc si on est sur des rouges foncés, des orangés, des bleus, des violets, des verts, etc., ça peut tacher et faire jaunir vos ongles. Donc du coup, on va appliquer une base pour les protéger contre les pigments contenus dans les vernis de couleur.
Jimmy, la base, vous avez compris, pour pas avoir les ongles jaunes, c'est important.
Et le deuxième avantage avec la base, eh bien, c'est que votre vernis va durer beaucoup plus longtemps.
Et Benjamin, ma femme me dit toujours qu'il faut agiter son flacon de vernis avant de l'appliquer. Est-ce qu'elle dit n'importe quoi?
Elle a toujours raison, votre femme, dit Jimmy. On vous conseille de secouer le flacon pour homogénéiser votre vernis, pour mélanger tous les composants. Et pour être sûr qu'il est bien fluide, Elien, il y a une petite technique. Vous sortez le pinceau 5 secondes et si la première goutte tombe avant les 5 secondes, eh bien c'est bon. Sinon, cela veut dire qu'il est trop épais, trop pâteux, donc il va mal sécher et donc risque de s'écailler rapidement.
J'adore moi tous vos conseils, Benjamin. Ensuite, pour appliquer son vernis, il y a une technique particulière.
Oui, c'est comme Zorro, ça se fait en 3 coups de pinceau. La règle, c'est de faire le moins de gestes possible, un trait droit au milieu, puis un trait sur la gauche et un dernier sur la droite. Et une fois que le 10e doigt est intermédié, eh bien rebelote, on applique une 2e couche et à la fin, on n'oublie pas de mettre un top coat. Alors pour savoir ce que c'est, eh bien, je vous propose d'écouter Nathalie Rolf.
Un top coat va servir justement à protéger le vernis contre les caïmans. Ça va prolonger encore une fois la tenue du vernis. Et en plus, en général, les fixateurs sont des produits qui vont faire briller la pose de vernis. Parce que déjà, un vernis de bonne qualité, à la base, il est brillant. Mais là, le fait de rajouter un fixateur va lui donner encore beaucoup plus de brillance.
Et après, Benjamin, ça sèche en combien de temps le vernis ?
Alors, plus il y a de couches, plus ça sera long. Ça peut même parfois prendre 20 minutes pour que son vernis soit sec. Mais il existe une solution, comme nous l'explique Nathalie Rolf de chez Mavala, pour accélérer tout ça. Eh bien, ça s'appelle tout simplement un sèche-vernis.
Vous en avez en spray. Donc là, une fois que vous avez appliqué le top coat, vous attendez peut-être 30 secondes, une minute, et vous mettez un sèche-vernis sous format spray. Et après une minute, votre pose de vernis sera sèche au toucher. Après, c'est aussi sous forme d'huile. Vous déposez au pinceau une goutte d'huile et votre pose de vernis sera protégée. En une minute, sera sèche au toucher aussi. Ou alors, ça sera sous forme d'un vernis résineux, en fait. On va l'appliquer comme une base, comme un vernis, comme un top coat.
Oui, vous avez bien noté, Jimmy, après le sèche-cheveux, le sèche...
Je sais pas.
Le sèche-vernis.
Sèche-vernis, pardon, excusez-moi.
Et enfin, pour que son vernis tienne le plus longtemps possible, on évite de trop utiliser ses mains, ses doigts. Donc, on évite de faire la cuisine, la vaisselle ou encore de bricoler.
Et ben voilà, c'est parfait pour vous, Jimmy.
C'est parfait, ça me va très bien.
Merci beaucoup, Benjamin, pour ce conseil beauté du vendredi.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de la semaine, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, on va finir la semaine avec une question plus psycho que sexo. Elle nous a été posée par Neyma. Elle nous dit la chose suivante. En discutant l'autre soir avec un ami, il m'a confié qu'il ne pouvait jamais dormir sans couverture. Il me dit que même l'été, il est obligé d'avoir quelque chose qui l'enveloppe, sinon il ne se sent pas bien, pas en sécurité. J'ai trouvé ça vraiment bizarre, pas vous. Pourquoi certaines personnes, Catherine, comme l'ami de Neyma, j'avoue, moi je suis un peu pareil, j'aime bien dormir avec un drap toujours sur moi. Pas que j'ai très peur, mais là elle dit, il se sent paniqué, pas en sécurité, même quand il fait chaud, ça vient de quoi ?
Eh bien, d'abord, parce que quand on s'endort, on perd le contrôle de ce qui se passe, de ce qui se passe dans notre environnement. On se replie à l'intérieur de nous-mêmes, dans une bulle. Et évidemment qu'il faut beaucoup de confiance pour laisser ce qui pourrait se passer à l'extérieur, le regard des autres, notamment sur ce corps qu'on a gentiment, tranquillement abandonné dans le lit, et particulièrement sur tout ce qui concerne notre génitalité. D'ailleurs, là, on parle de drap, mais souvent, vous savez, des personnes qui vont dormir avec un slip, une culotte...
Un pyjama, c'est basique.
Voilà, mais alors,
je trouve pas ça choquant, moi, mais bon.
Des gens qui vont dormir avec un slip ou avec un pyjama, oui,
Catherine est pour le dormir libre, je pense.
Oui,
mais ça veut dire quelque chose de nous de vouloir dormir en pyjama. Moi, par exemple, je ne dormirai jamais en slip. J'ai besoin d'un pyjama, parce que torse nu, je ne supporte pas. J'ai besoin aussi d'une couverture. Est-ce que c'est un signe d'insécurité?
Moi, j'aime dormir en pyjama.
Est-ce que
aussi.
Je dois venir vous voir?
On a peur, on est tous les deux.
Encore une fois, on a le droit d'avoir nos insécurités. On a tous nos insécurités sur un sujet ou sur un autre. Ça n'est pas pathologique, ça ne nécessite pas.
C'est un signe d'insécurité.
Jimmy, en plein été, quand il fait 40 degrés, vous ne dormez pas avec un pyjama?
Ah, si, avec une doudoune, un polaire, des moubles. Non mais si. Non, mais
la question, c'est même en été, il dort très enveloppé. Donc c'est ça. Est-ce que
après c'est un signe d'insécurité pour de vrai?
Ça peut être tout à fait l'expression.
Là, on va être dans la consultation avec Jimmy.
J'ai basculé l'insécurité.
Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que nous avons cette espèce de retour à l'état ineffable qui était le ventre maternel où on était enveloppé. Donc on recherche l'enveloppement qui est le lieu des sécurités. Dormir, c'est quand même aller flirter avec une idée de mort, en quelque sorte, d'accepter.
Tout s'éteint.
Et donc, c'est un besoin de sécurité par un environnement.
Quand on est petit, on se cache des monstres sous les couverture.
Voilà, on se cache des monstres. Donc c'est dire, les monstres, c'est souvent d'ailleurs ses propres pulsions. Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'on se protège et de l'extérieur qui pourrait nous agresser, et de l'idée que nous nous faisons de nos propres fantasmes, puisque quand on dort, nous rêvons. Donc c'est la liberté tout d'un coup de notre inconscient de s'exprimer. Et nous avons peur de nos propres pulsions, dont les pulsions sexuelles ou dont les pulsions agressives. Et donc le fait d'être protégé, c'est un peu comme mettre un voile sur ce lieu d'expression que représente notre sexualité. Et puis c'est aussi, comme je vous dis, un retour à l'état du fœtus protégé dans le ventre maternel.
Jimmy, parlez-nous de votre pyjama.
J'ai appris, il est pas mal, j'en ai acheté des nouveaux, trois nouveaux, bien. Parce que j'ai commencé à tomber un peu à court de pyjama, mais il faut toujours être classe le soir.
Il nous raconte sa vie, tranquille.
Mais juste à l'inverse, ceux qui ne dorment pas avec de pyjama, ceux qui dorment tout nus ou sans couverture, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de sentiment d'insécurité. Est-ce qu'on peut extrapoler de cette façon et qu'ils sont très à l'aise avec la vie et qui peut-être, si on va mettre un peu plus loin, ce sont des gens qui sont moins stressés dans la vie de tous les jours. Est-ce que ça dit quelque chose de notre stress ?
Oui, mais ceci étant, encore une fois, ne nous laissons pas leurrer. Vous avez ceux qui dorment nus, mais à condition qu'il y ait quelqu'un à côté d'eux. Donc, ce quelqu'un fait office de protection. Et dès lors que le couple, par exemple, l'un des deux est parti en voyage, eh bien, celui qui dormait nu ne dort plus nu. Ouais. Donc, c'est des choses... Ou dort avec nu, mais alors avec tout fermé à clé, à double tour, triple tour, parce que finalement, la confiance était donnée à son partenaire ou sa partenaire qui, par sa seule présence, est un cadre de protection. Donc, y a, encore une fois, il n'y a pas ceux qui s'en sortent et ceux qui ne s'en sortent pas, les coincés et les pas coincés, les libérés pas les libérés. Je crois que nous n'avons pas tous un rapport à notre corps, à nos pulsions, à notre sommeil aussi, puisqu'on pourrait aussi mettre en parallèle qui dort comment. Il y a ceux qui dorment profondément et tranquillement et ceux qui ne dorment pas et qui sont toujours en surveillance. Donc, entre ceux qui sont en surveillance, nus certes, mais en surveillance, ou ceux qui sont habillés et qui s'endorment tranquillement, peut-être faut-il à ce moment-là choisir le pyjama et le sommeil profond pour une meilleure qualité de vie.
Et on peut le transposer aux enfants. Les enfants qui dorment, il y en a certains qui veulent des couvertures, d'autres pas. On peut transposer la même réflexion.
Quand vous avez effectivement, d'ailleurs, il y a des gens qui aiment avoir du poids sur eux, sentir que la couverture est très présente.
Oui, il y a des couvertures comme ça de pesanteur, là,
et d'autres au contraire qui vivent que la couverture pesante est un carcan,
ça étouffe, ouais.
Voilà, et donc ça raconte aussi des rapports. Tout à l'heure je parlais du ventre maternel, aussi du rapport à cette maman, est-ce qu'elle est ou ses parents, est-ce qu'ils sont étouffants et donc du coup j'ai besoin de liberté, sortir un pied, une jambe, etc. Ou est-ce que au contraire j'ai besoin d'être très sécurisée, me retrouver dans la ouate de la protection que va symboliser la couverture.
Bien, merci Catherine. Écoutez, on a appris plein de choses, hein, à partir d'un pyjama, d'une couverture, finalement ça dit beaucoup de choses de nous. Merci Catherine pour tous vos conseils précieux. Comme toujours, Jimmy va remettre son pyjama ce soir pour se sentir bien, on
comme
le comprend.
Toujours, hein.
Et il va dormir comme un loir.
Comme un bébé. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Dans un instant, je vous laisse en compagnie de Stéphane Bern et Mathieu Noël pour Historiquement Vôtre. Ils nous racontent l'histoire sans se la raconter. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. C'est notre 100e aujourd'hui.
C'est la fête. Oui. La
alors, fête. Pour fêter ça, on écrit sur les murs.
Oui, je ne sais pas pourquoi. Oui, on écrit sur les murs. Justement, foutre le bordel dans le studio. On écrit sur les murs à la rencontre de trois personnages qui ont écrit, ou peint en tout cas, sur les murs la femme préhistorique.
Oui. En fait, l'homme préhistorique était une femme, on le découvrira.
Et on le découvre parce qu'on a souvent privilégié l'homme préhistorique, mais la femme était là aussi. Jean-Michel Basquiat, dont vous avez quelques beaux tableaux chez vous, Stéphane.
Bah, oui, des croûtes sur les murs. Oui.
Et quant à moi, Stéphane a choisi pour moi mon sujet. Oui. Il se réserve les personnages chics. Moi, je ferai Demis Roussos, un grand chanteur.
Ça va être une émission au poil.
Très bien, alors nous d'habitude on part à la chasse aux poils, mais là apparemment on reste dans les poils. Bon, très bien, allez, merci beaucoup. On va vous écouter bien sûr avec le docteur Jimmy Mohamed et vous aussi surtout, restez sur Europe 1.